Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les talents français. Le 29 avril prochain, c'est la journée de la solidarité intergénérationnelle. Nous allons découvrir ensemble des entreprises, des start-up qui ne manquent pas de belles idées pour renforcer ce lien entre les générations. Tout à l'heure, nous serons avec une jeune femme qui a créé l'association Étoilée et Solidaire et qui se bat aux côtés d'une trentaine de bénévoles pour mettre la gastronomie au service des personnes âgées en situation de précarité en Île-de-France, leur redonner le goût de manger, le goût, le plaisir de la convivialité. Mais tout de suite, je vous propose d'en apprendre davantage sur la colocation intergénérationnelle qui se développe dans plusieurs villes de France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Juliette Millet, responsable de la communication chez Colette. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors cette colocation intergénérationnelle, dans un premier temps, c'était quoi? C'était pour lutter contre l'isolement, hein, c'est bien ça?
Oui, exactement. Donc la cohabitation intergénérationnelle, comme son nom l'indique, en fait, c'est le principe est de mettre en relation des hôtes qui ont plus de 60 ans et qui ont une chambre inoccupée dans leur appartement ou dans leur maison. On les met en relation avec des jeunes, principalement des étudiants, qui eux, à l'inverse, sont à la recherche d'une chambre et d'un logement. Et donc, en effet, il y a plusieurs avantages, mais une des motivations principales, en effet, c'est de lutter contre l'isolement des seniors. On s'adresse à des jeunes seniors, mais quand même, voilà, des personnes qui peuvent vivre seules, et ça peut être pesant de vivre seule. Et donc, voilà.
Mais l'isolement est une problématique qui touche 24% des plus de 15 ans en 2021, selon la Fondation de France. Donc, on voit qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. En fait, tout à fait, c'est quand on parle d'isolement, on parle de l'isolement de nos seniors, d'une part, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de seniors qui habitent seuls, parce que certains sont séparés, veuf, etc. Mais aussi du côté des étudiants, en effet, parce que beaucoup d'étudiants habitent dans un logement étudiant ou alors dans un studio, etc. Et donc, c'est aussi pesant d'habiter seul dans un petit appartement et loin de sa famille, etc., parce que c'est la majorité des cas, il y a beaucoup d'étudiants qui doivent changer de ville pour aller étudier dans une autre ville que leur ville natale. Donc ça peut être pesant en effet d'être loin de ses proches aussi.
Et ça s'est aggravé par rapport à 2020, hein, cet isolement. Et ça, on le sait bien, c'est dû à la crise sanitaire. Donc votre site, il propose donc à ces seniors qui possèdent, vous le disiez, hein, des chambres inoccupées, de les louer à des étudiants. Donc du coup, les prix sont beaucoup plus attractifs. Hein. C'est aussi ça l'intérêt.
Exactement. Nous, il y a vraiment on essaie de répondre à une double problématique. On parlait de l'isolement des seniors, donc ça, c'est un premier point. Et en effet, la précarité étudiante, on sait que c'est difficile de trouver un logement quand on est étudiant. Voilà, moi, j'ai 27 ans et donc j'ai terminé mes études, mais il y a quelques années encore, j'ai connu cette difficulté de trouver un appartement quand on n'a pas forcément un très bon salaire, voire pas de salaire quand on est étudiant, qu'on n'a pas forcément des garants très solides, etc.
Et qu'on est surtout, l'Union nationale des étudiants de France prévoit une augmentation de ce coût de la vie étudiante.
Exactement. Et en fait, dans ces cas-là, c'est vrai que nous, ce qu'on apporte chez Colette, des loyers justement abordables. Et en plus de ce loyer abordable, donc de la somme qui est quand même bien moindre que la location d'un appartement dit classique, c'est pas seulement en fait une petite superficie, c'est qu'en fait on permet à tous nos étudiants d'accéder à un grand appartement, souvent placé en plein centre-ville, un appartement familial, puisque souvent, dans la plupart des cas, en fait, c'est un appartement qui a une chambre libre, et donc ça a été la chambre d'un des enfants de l'hôte. Et donc souvent c'est des grands appartements spacieux, familial, et en fait on se dit que ces étudiants sont là pour étudier, donc nous on veut leur proposer le meilleur cadre possible pour étudier et être au calme pour étudier dans les meilleures conditions.
D'être bien situé à côté de ça, ils peuvent rendre aussi des services aux personnes les plus âgées, hein, aller faire les courses avec elles ou bien pour elles. Donc est-ce qu'il y a parfois des liens, des vrais liens qui se créent justement entre cette colocation un peu inhabituelle?
Oui, tout à fait. Alors nous, sur la partie service à rendre, en fait, chez Colette, ça fonctionne vraiment comme une colocation, en fait, juste entre deux personnes de deux générations différentes, mais il n'y a pas de service obligatoire à rendre. On dit vraiment que c'est comme dans une colocation classique, c'est-à-dire si je sors du métro et que je passe devant une boulangerie, évidemment que je vais acheter une baguette de pain, je peux rendre des petits coups de main au quotidien, mais c'est pas vraiment, on ne veut pas qu'il y ait un poids supplémentaire sur les épaules de l'étudiant, mais en effet, c'est plein de petits, c'est du bon sens, c'est du bien vivre, quoi. Donc en effet, c'est partager un dîner, c'est changer une ampoule, c'est donner 2-3 petits conseils informatiques de la part du jeune pour à l'hôte avec qui il habite. Et du coup, bah, c'est vrai que de partager tous ces moments au quotidien et de partager en fait une vie ensemble, ça fait qu'en effet, il y a de vrais liens qui se créent. Il y a des cohabitations qui fonctionnent très bien et qui en fait les relations vont au-delà de l'appartement. Et voilà, je pense à Catherine qui habite à Levallois et qui héberge Lucille qui vient de La Rochelle, et en fait elle lui a fait complètement découvrir Levallois en l'amenant au marché, dans les petits magasins qu'elle aimait bien, elle l'a emmené visiter la Tour Eiffel, enfin, et en fait on se rend compte que voilà, il y a plein de souvenirs qui se créent entre nos cohabitants, et ça c'est assez important, et on voit qu'il y a un vrai apport en fait du côté de l'autre, parce que c'est vrai que ça peut être pesant de vivre seul, et je pense à Elia, par exemple, qui m'a toujours dit que elle trouvait ça très difficile d'habiter seule, non pas pour la solitude en tant que telle, mais pour, en se disant, si jamais il m'arrive quelque chose un jour, le fait d'être seule, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Et en fait, elle disait juste de
ça
savoir...
Ça peut même rassurer les familles.
Exactement,
de ces personnes
exactement.
Âgées.
Les familles des personnes âgées, comme les familles des étudiants, parce que on sait qu'il lui arrivera rien et qu'elle va rentrer chez elle le soir. Là, en l'occurrence, que je parlais de Clara qui est chez Elia, et voilà, en fait, des deux côtés, c'est super rassurant, de sans avoir forcément à se parler en continu. C'est après le niveau d'échange et d'interaction se fait de manière tout à fait spontanée.
Mais comme dans une colocation, vous le disiez, ça peut bien se passer comme moins bien se passer, comme dans toute colocation.
Exactement.
Sauf que là, ce qui est assez original, c'est de jouer sur le côté intergénérationnel. C'est vrai que le jeune accepte peut-être les règles du jeu, il ne va pas faire la fête de la même manière s'il est en colocation avec une personne plus âgée, mais il y a aussi d'autres avantages, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut dire que finalement, cette solution, elle est très actuelle, avec cette volonté de plus en plus de personnes âgées de vieillir chez elles ?
Exactement. C'est vrai qu'on sait que beaucoup de Français et de seniors qui ont été interrogés dans de nombreuses études, disaient que c'est très intéressant, enfin très important pour eux de vieillir à domicile et entouré, parce que c'est quelque chose d'important de ne pas quitter l'appartement dans lequel on a grandi, vécu et voire même commencé à vieillir. Exactement. Et je sais que Johanna, qui est une de nos hôtes, qui a 87 ans, qui habite dans le 12e à Paris, elle racontait que justement, elle, en fait, son mari était décédé et qu'elle se voyait absolument pas aller en maison de retraite, aller en EHPAD, etc. Parce que déjà, elle a toute sa tête. Et qu'en fait, elle disait que dans cet appartement, elle retrouve tous les souvenirs qu'elle a avec son mari, et que, en fait, c'est un appartement qui est rempli de souvenirs, d'émotions, etc. Et qu'elle se voyait vraiment pas le quitter. C'était un déchirement pour elle. Et qu'en fait, du coup, en hébergeant Aloïs, qui est un jeune étudiant qu'elle héberge, justement, elle s'y retrouve parce qu'elle peut rester dans cet appartement. Elle peut rester avec ses souvenirs et dans cette situation qui est très, qui est rassurante. C'est quelque chose qu'on connaît. Et en même temps, faire profiter quelqu'un d'autre et ne pas être seule.
Voilà, et c'est un complément de revenus aussi. Parfois, vous le disiez, un peu d'aide au quotidien. Et voilà, et puis une certaine cure de jouvence au contact de tous ces jeunes. Votre start-up, Colette, connaît un certain succès depuis sa création en 2020. C'est quoi la prochaine grande étape ? Parce que là, on parle beaucoup de l'Île-de-France, parce que c'est là où Colette a été développée dans un premier temps. Le prochain grand défi ?
Alors déjà, je voudrais juste revenir sur, en effet, le côté revenu. C'est vrai que c'est quand même une motivation qui est assez importante pour nos hôtes, parce que mine de rien, ce petit complément de revenu, il est non négligeable, et c'est vrai que la plupart de nos hôtes en ont besoin, que ce soit pour compléter une petite retraite ou alors compléter, je pense à Elisabeth qui est son mari en EHPAD, et voilà, ça génère beaucoup de frais, et donc dans ces cas-là, en fait, c'est une manière de pouvoir contribuer à au bien-être de son mari. Donc ça, c'est important de le préciser, parce que c'est quand même une motivation importante, et c'est un avantage assez important pour nos hôtes. Et quant à la prochaine étape,
Une grande étape alors.
Oui, en effet, Colette, historiquement, on est basé à Paris, et on vient d'ouvrir deux nouvelles villes, donc maintenant on opère à Bordeaux et Lyon. Et donc la prochaine étape, c'est de faire grandir, Colette, de faire connaître Colette dans ces deux villes, autant que c'est le cas actuellement à Paris. On l'espère avoir le même succès qu'à Paris et pouvoir proposer, créer de nouvelles cohabitations, créer beaucoup de cohabitations dans ces deux nouvelles villes.
Un peu partout en France.
Exactement.
Merci beaucoup Juliette Millet. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication chez Colette. Et je vous souhaite un bon dimanche.
Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.
Au revoir. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec un autre entrepreneur très très engagé pour créer du lien intergénérationnel. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, consacrée à ces entrepreneurs engagés pour créer du lien intergénérationnel. Le 29 avril prochain, c'est la journée de la solidarité intergénérationnelle. On va découvrir justement ces belles initiatives qui permettent de lutter contre l'isolement. Souvent seules, les personnes âgées ne prennent plus forcément de plaisir à manger. Le lien avec la nourriture est rompu, comme peut l'être le lien social. Eh bien, en 2018, Marie Guillois a fondé l'association Étoilée et Solidaire. Pour mettre la gastronomie au service des personnes âgées en situation de précarité, notamment en Île-de-France. Voilà une très très belle initiative, on en parle tout de suite avec elle.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Marie.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est vrai que c'est une belle idée, cette association Étoilée et Solidaire. Expliquez-nous le principe.
Oui, alors Étoilée et Solidaire est avant tout une mobilisation collective de chefs, de partenaires, et aussi d'une équipe engagée pour réaliser des initiatives gastronomiques pour des aînés isolés, issus du domicile.
Mais alors ça veut dire qu'ils viennent quelque part, les chefs viennent à eux, comment ça se passe ?
Alors concrètement, nous avons différents formats d'initiatives pour les aînés isolés, donc toujours issus du domicile. Donc nous avons des initiatives à la fois au restaurant, par exemple il y a une initiative qui s'appelle la table de nos aînés. La table de nos aînés, c'est une table qui réunit des aînés isolés et un grand chef leur propose un menu gastronomique. Donc ça, c'est une activité au restaurant, si je puis dire. Il y a également les initiatives au domicile pour des aînés qui ne peuvent plus se déplacer. On a par exemple les chefs s'invitent chez nos aînés, ce sont des boxes de repas à emporter qui sont livrées par courtier.fr et ces boxes de repas donc, sont acheminées au domicile d'aînés isolés. Et enfin, nous avons également des initiatives sur le plateau de Top Chef, comme par exemple les éditions Chef d'un jour, où ce sont des aînés isolés qui réalisent un menu surprise avec un collectif de chefs. Et j'en oubliais une dernière initiative qui s'appelle « Inviter un aîné à dîner ». Ce sont des duos auxiliaires de vie et aînés qui partagent un repas gastronomique dans un restaurant d'un chef.
Et là, on parle de restaurant gastronomique, donc c'est y a de quoi, comment dire, flatter les papilles. Alors, comment vous avez eu cette idée d'Étoilée Solidaire ?
Alors, j'ai eu cette idée à la suite de mes expériences personnelles et professionnelles. J'ai, si je puis dire, été en contact avec des aînés actifs, retraités, en perte d'autonomie et aussi en soins palliatifs. Et j'ai eu l'occasion.
Vous avez travaillé dans des EHPAD ?
Oui, tout à fait. J'ai travaillé en plateforme de domicile, en EHPAD. Et j'ai été aussi auxiliaire de vie en parallèle de mes études. Et j'ai du coup eu l'occasion d'échanger avec toutes ces personnes âgées sur leur dernier plaisir et ce qu'elles attendaient encore. Et leur dernier plaisir était avant tout le lien social et la gastronomie, puisque la gastronomie stimulait leurs papilles, mais aussi leur remémorer des souvenirs.
Et puis aussi le lien. C'est vrai que c'est réconfortant un bon repas.
Ah oui, tout à fait, ça porte du baume au cœur et surtout quand on est bien entouré.
Ça, c'est important également. Mais alors du coup, il y a eu un gros travail de votre part pour réussir à fédérer tous ces chefs qui ont déjà un emploi du temps très chargé. Et je pense notamment au chef triplement étoilé Pierre Gagnère, qui est parrain de l'association.
Vous avez raison de le mentionner, Nathalie. Oui, effectivement, on a œuvré depuis 3 ans déjà. Et ça a été vraiment un long parcours déjà pour faire connaître Étoilée Solidaire auprès de nos aînés, auprès de nos chefs, auprès de nos partenaires. Et puis petit à petit, il y a une grande chaîne de solidarité qui s'est instaurée. Et aujourd'hui, il y a différents chefs qui se succèdent tous les mois pour ces initiatives dont je vous ai parlé. Et oui, en effet, Pierre Gagnère est notre grand parrain depuis 3 ans. Nous avons vraiment la chance d'avoir un grand parrain qui a des grandes qualités de cœur et qui est aussi très talentueux et qui participe très régulièrement à nos initiatives.
Alors, on parle beaucoup de l'Île-de-France. Ça donne envie de voir cette belle initiative s'étendre ailleurs en France. Est-ce que ça fait partie des objectifs ?
Vous tombez à pic. On est en pleine phase de développement régional où dans les prochains mois, nous aurons des régions qui justement, ou des aînés pourront bénéficier de nos initiatives. Donc on en reparlera dans quelques mois, mais oui, nous sommes en train de développer certaines de nos initiatives, notamment la table de nos aînés et inviter un aîné à dîner dans certaines régions. Donc ce que je peux vous dire, ce sera le sud et puis aussi la région du nord.
C'est vrai que les chefs gastronomiques étoilés, c'est une grande famille, ils se connaissent tous. Donc grâce aussi à l'impulsion qui sera aussi peut-être donnée par Pierre Gagnère, ça donnera envie à d'autres de participer à cette belle aventure.
Tout à fait, c'est Pierre Gagnère qui lance chacune de nos nouvelles initiatives. Donc là, c'est lui qui lancera aussi notre prochaine initiative dans la prochaine région.
Et je tiens à préciser que vous travaillez avec une trentaine de personnes qui vous aident bénévolement à organiser tout ça.
Tout à fait, oui, nous avons une trentaine de bénévoles qui sont répartis en pôles communication, RP, médias, audiovisuels, et qui œuvrent au quotidien pour justement réaliser nos différentes initiatives en faveur de nos aînés. Ce qui nous motive tous, c'est vraiment faire bouger les lignes pour nos chers aînés que l'on ne voit pas, qui sont invisibles et qui en fait qui ne demandent qu'à sortir.
Et je vais vous faire une confidence, ma grand-mère qui malheureusement n'est plus de ce monde, sur ces dernières années, je me rendais compte que venir avec une boîte de macarons, une boîte de chocolat, c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir, quoi. On a un plaisir, la gastronomie, les petits plaisirs sucrés, il y a, comme je le disais, quelque chose de réconfortant, puis c'est un plaisir immédiat.
Tout à fait, c'est vraiment un plaisir immédiat et surtout nos aînés nous disent souvent à quel point ça leur fait remémorer des souvenirs lointains mais aussi proches. Donc pour elles, c'est vraiment la gastronomie, oui, un plaisir gustatif, mais aussi le plaisir de se souvenir, de souvenirs tout simplement.
Ouais, des belles madeleines de Proust. Merci encore Marie Guillois. Je rappelle que vous avez fondé l'association Étoilée et Solidaire et on l'attend un peu partout, dans le nord et dans le sud de la France, si j'ai bien noté.
Merci Nathalie. Oui, c'est tout à fait ça. Vous pouvez nous voir sur nos réseaux sociaux.
Merci, je vous souhaite un très très bon dimanche. Au revoir Marie.
Au revoir Nathalie.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cessa-la-France avec Thibault le French Trotter.
Et direction tout de suite la Farlède, un petit village au cœur de la Provence. C'est là que se trouve un ancien moulin à huile dont Thibault va nous révéler tous les secrets.
Et oui Nathalie, on est dans le Var, près de Toulon, plus précisément au pied du mont Coudon, on est au milieu des oliviers, et on a la chance d'être avec Magali Kaufmann, gérante du moulin du Partégal, et c'est un moulin très ancien, je crois qu'il date du 14e siècle, c'est ça Magali ?
Oui, tout à fait, il date du 14e siècle, et c'est le grand-père de mon mari qui l'avait racheté contre quelques pièces d'or.
Et là je suis devant ces vestiges gallo-romains, devant ce bel aqueduc qui acheminait l'eau de la source jusqu'à la roue à auger qui permet d'actionner le moulin.
Alors ça menait l'eau à la roue à auger qui faisait tourner ensuite les engrenages de la meule.
Ces engrenages sont toujours là ?
Toute cette partie ancienne est toujours là. Bien sûr elle ne marche pas mais le reste du moulin artisanal marche toujours. La meule et la presse marchent toujours.
Aujourd'hui alimentée par un moteur électrique.
Et oui, tout à fait.
Mais la meule en granit n'a pas bougé.
Le broyage contre pierre est toujours le même. Et on essaie de faire une huile de qualité, notamment à la meule et puis aussi au moulin moderne, hein. C'est pour ça qu'il y a quelques années, nous avons changé de matériel de production et on a pris un matériel beaucoup plus
technologique.
Technologique, voilà, exactement.
C'est ça, en fait, le Partégal, c'est l'alliage de l'ancien et du nouveau, de la technologie.
C'est ça.
Comment on pourrait définir cette huile que vous produisez ici ?
Bien, nous avons différentes huiles qui s'adressent à différentes personnes, à différents goûts. Mais je pense qu'on peut la qualifier de sincère.
Sincère, authentique comme vous Magali.
Merci, merci beaucoup.
Il y a une spécificité aussi ici au moulin du Partégal, c'est que vous ouvrez vos portes largement à la visite.
Tout à fait, en fait ce n'est pas qu'un musée, c'est un lieu de fabrication, mais en dehors de ces moments de fabrication, on a des visites guidées. On visite le moulin, les extérieurs, c'est-à-dire l'aqueduc, la roue à Auger, on voit le moulin, on vous explique comment a été fabriquée l'huile. Et on fait aussi un petit cours sur la traçabilité, c'est-à-dire on explique la réglementation sur les étiquettes. Non pas pour critiquer les huiles, mais pour expliquer à lire une étiquette tout simplement. Et on termine par une dégustation de nos huiles, de nos produits. Tout cela, bien entendu, gratuit.
Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur ?
Mais bien entendu.
Allez, on y va. Donc on est passé à l'intérieur du moulin. Et j'aimerais, Magali, que vous nous décriviez cette meule d'origine.
Oui, alors elle est constituée d'une mare, hein, où on entrepose les olives, d'une pierre en granit et perpendiculaire une autre pierre en granit d'une tonne de chacune.
D'accord.
Ça s'appelle le broyage pierre contre pierre. Et tous les engrenages sont en buis. Donc on met 260 kg d'olives dedans. La meule broie pendant, on va dire, 45 minutes les olives. Et ensuite, quand la pâte d'olive elle est formée, on ouvre la petite trappe à l'intérieur. Et ça se déverse dans cet instrument-là qu'on appelle
que l'on voit donc
oui qui s'appelle un anse courtineur.
D'accord.
Ça veut dire que c'est un distributeur
donc
de pâte
en dessous, qui est juste sous voilà. Sous la fameuse mare.
C'est ça et qui distribue la pâte sur des courtins, des supports en polypropylène.
D'accord. Qui sont souples voilà.
Voilà. Dans le temps c'était des bérets.
Oui, ça ressemble à des grands chapeaux mexicains.
C'est ça, oui, voilà. Le sombrero, tout à fait.
Le sombrero.
Donc on les garnit de pâte d'olive d'environ 1 cm et puis on les empile sur le chariot à presse qui se trouve ici. Et puis ça presse pendant 1h30.
1h30.
Voilà.
Alors moi j'aimerais que vous m'expliquiez la première pression à froid, c'est quoi ?
Alors la première pression à froid, en fait avant il y avait une deuxième pression qui était à chaud ou à tiède.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on pressait, comme je viens de vous l'expliquer, et ensuite on reprenait le grignon, la pâte d'olive, on remettait dans l'eau chaude dessus et on repressait. Et c'est ce qui servait à s'éclairer.
Ouais.
Hein, c'était la deuxième pression à chaud ou à tiède. Bon, maintenant, avec l'électricité, c'est terminé. Mais on a gardé ce terme de première pression à froid. Et ce qui veut dire, c'est que quand vous voyez première pression à froid, ça veut dire que la pâte d'olive a été pressée. Ce qu'on trouve le plus fréquemment dans les supermarchés, c'est l'extraction avec le moulin moderne tel que nous l'avons aussi. Ce sont deux formes différentes de trituration des olives.
Je crois que vous avez donné envie aux auditeurs de venir. Alors comment fait-on pour venir vous voir ?
On peut aller sur notre site, on peut réserver des visites guidées qui sont...
Le site, on va rappeler l'adresse ?
Oui, c'est moulinduparthégal.fr tout simplement. On a 5 visites par jour. Voilà.
Merci beaucoup Magali pour cette belle visite.
Merci beaucoup de votre venue.
Bon Nathalie, fin de ma visite. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre découverte.
Merci à Magali qui nous a donné envie d'aller visiter ce moulin du Partégal. C'est l'occasion aussi de découvrir la passion et le savoir-faire des artisans mouliniers.
Sud Radio Cessa la France avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et encore un grand merci à Thibault qu'on retrouve la semaine prochaine. Merci à vous également, chers auditeurs. Je vous souhaite un très très bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.